Salut! Ici Annie et Cathy de Cigogne et Baluchon.
Dans ce podcast, notre mission, c'est vraiment de t'accompagner et te soutenir à travers ta maternité pour que tu puisses enfin porter tes propres couleurs.
C'est ton moment à toi, juste pour toi. C'est parti!
Salut ma belle Annie!
Salut!
Ça va bien?
Très bien, toi!
Eh oui! Hey, aujourd'hui, on a décidé de parler du postnatal.
Oui!
Parce que, tu sais, vous le savez, moi, je prépare beaucoup les couples pour l'accouchement, pour le postnatal. J'ai fait beaucoup de formations pour justement mieux soutenir les parents postnatal parce que je trouvais que ça manquait énormément dans la préparation des parents. Tu sais, des préparations à l'accouchement, des cours prénataux.
Hein,
il y en a, les parents en prennent, ils s'informent, tout ça. Mais c'est comme si quand on arrive pour parler du post-accouchement, les parents, souvent même ce qu'ils me disent, c'est « Ah oh non, moi je suis correcte, je suis éducatrice en centre de la petite enfance ou j'ai gardé beaucoup des enfants quand j'étais jeune, je sais comment ça marche les bébés, il n'y a pas de problème. » Fait que des fois je suis comme « Oups! » Ça me donne un peu envie de rire parce que... quand on arrive dans la réalité, hein, surtout le retour à la maison, des fois, on se fait un petit peu prendre avec notre nouveau-né, finalement.
Ben oui, puis tu sais, j'ai l'impression qu'à partir du moment où est-ce qu'on a le soulagement de quitter l'hôpital, on fait comme « Ah, yes, tu sais, je vais être dans mes affaires, ça va bien aller, tu sais, je vais être en lien avec mon bébé, en contact, puis ça va se passer merveilleusement bien. » Malheureusement, c'est pas tout le temps la réalité. Il y en a que ça fonctionne comme ça, puis avec qui, tu sais, ils sont bien dans leur chez-soi, mais des fois, il y a des petites péripéties qu'on a omis de nous enseigner, peut-être, ou qu'on a...
Qu'on a peut-être pas voulu entendre
non,
tout le temps,
c'est ça. Ben oui, vraiment, ouais. Puis, tu sais, je regarde les mamans présentement, puis avec le groupe de Cigogne et Baluchon, puis les suivis que je fais en privé, ben je me rends compte que les femmes sont pas tant préparées à cette période-là, puis qu'ils font comme le saut des fois de se dire « Aïe, tu sais, je m'attendais pas à ça. » Puis là, on s'entend, là, vous pouvez très bien vivre le postnatal, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment vous informer, vous donner l'information, puis de vous dire que c'est normal de vivre cette période-là.
Tout à fait.
Fait que là, Cathy, j'avais du nouveau-né!
Ouais, c'est ça, moi j'avais le goût aujourd'hui là, qu'on parle vraiment de cette courte période-là du postnatal immédiat que j'appelle. Fait que c'est vraiment là, les premiers jours qui suivent la naissance. Donc ça fait partie d'une formation que j'ai créée qui s'appelle le quatrième trimestre. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, la Java du nouveau-né. C'est quoi la Java du nouveau-né?
Ben, écoute, Cathy, je ne connaissais pas ce mot-là ou ce terme-là.
Ouais.
Oui, pour vrai.
Ouais, ben, tu sais, c'est pas tout.
Même après avoir eu 4 enfants, je connaissais pas ce terme-là. Mais il faut dire que j'ai pas été très cours prénato.
Ouais.
On s'est connus à ma dernière grossesse, hein?
Ouais,
tu te souviens?
C'est ça.
À la fin de ma dernière grossesse. Mais j'aurais eu tout à apprendre avant, ça, c'est sûr et certain.
Ouais, ben, c'est que souvent. Les parents, c'est par après, tu sais, on s'en rend pas compte qu'on traverse cette période-là, puis des fois, c'est quand on a peut-être l'information plus tard, on se dit « Hey, oui, c'est vrai, tu sais, je m'en souviens, ça l'a fait ça, tu sais. » Mais c'est bien d'être au courant avant, des fois, on s'évite bien des petits soucis ou bien des questionnements, finalement. Je vais parler un peu de ma propre expérience, comment c'est arrivé avec mes enfants, parce que c'est typique de ce qui arrive à tous les parents, finalement. Donc voilà, la naissance a lieu, hein? Fait que mon petit bébé est arrivé. On nous met dans une chambre post-accouchement, 2 heures suivant la naissance, on nous donne une autre, on nous assigne une autre chambre où on va faire notre séjour à l'hôpital. Donc, nous, c'était un 36 heures à peu près. Maintenant, c'est 24 à 36 heures, dépendant comment ça va. Puis là, ben, je me souviens très bien que à l'hôpital, mon bébé dort. Hein? Ça va bien. Je me dis, crime Pat, on a pogné le bon numéro. On a un bébé qui dort. Hein? Fait que ça, c'est les premières 24 heures. Après ça, on s'en retourne à la maison. On arrive, puis je me souviens très bien, hein? On arrive tout avec la coquille. On met ça sur la table de la cuisine. Puis là, on se dit, hey! Puis là, notre bébé dort dans la coquille. Puis on se dit, hey, mon Dieu, mais...
C'est merveilleux!
C'est merveilleux, mais en même temps, mais qu'est-ce qu'on va faire, là, maintenant, avec notre bébé? Tu sais, on est comme dans une espèce de double émotion en même temps. Et là, on arrive, on est plutôt à 36, 48 heures de vie. Et c'est souvent la première nuit, finalement, à la maison. Et là, moi, je me souviens, les deux premières nuits où j'ai essayé d'allaiter, finalement, et que ça l'a été rock'n'roll. Et c'est ce qu'on appelle la Java du nouveau-né. Fait qu'aujourd'hui, je veux vraiment vous expliquer qu'est-ce qui arrive, parce que moi, ça m'est arrivé à mes deux enfants. Donc, d'avoir les premiers 24 heures très tranquilles, un bébé qui dort beaucoup, et après, un bébé qui est vraiment irritable, irrité, un bébé là, qui pleure beaucoup, qui veut être collé constamment. Fait que c'est ça qu'on va décortiquer un petit peu.
C'est drôle, là, tu me parles de ça, puis j'ai des souvenirs qui montent de la naissance de Antoine, que c'était donc ben wow! Puis je me souviens d'une période où est-ce que j'essayais moi aussi d'allaiter, puis que tabarouette, ça se passait pas comme je le voulais. Puis en plus, écoute, Cathy, moi j'ai fait des gerçures avec mon premier, ouais. Là. Ça a été un peu l'enfer, mais je me souviens de cette période-là où est-ce que c'était un peu... intense et difficile.
Oui, exactement. Ben en fait, tu sais, cette Java-là du nouveau-né, c'est une étape physiologique qui est normale. Hein? Pour les bébés, allaités ou pas, c'est un comportement typique du nouveau-né, OK? Fait que c'est comme tout à fait normal que ça se produise comme ça. Donc, les 24 premières heures chez le nouveau-né, c'est une récupération post-natale. OK? Fait que le bébé récupère de la naissance et les parents doivent récupérer aussi. Fait que c'est pour ça que durant le premier 24 heures, il va avoir pas beaucoup d'allaitement. Le bébé va dormir beaucoup. Il y aura pas beaucoup de périodes d'éveil. Là. Fait que l'allaitement, ça, on va essayer hein, souvent de vous dire on réveille bébé, tout ça, pour essayer d'avoir des prises alimentaires. Puis là, on se questionne, ah ben là, je vais-tu être capable d'allaiter? Là, j'ai pas le goût tout le temps de réveiller mon bébé. Tu sais, on est tout le temps dans cette espèce de petit dilemme-là. Mais c'est tout à fait normal que dans les premières 24 heures, on ait un bébé qui dorme beaucoup parce qu'il est en train de récupérer de cette naissance-là. Et pour un bébé qui est né à terme, de bonne santé, de bon poids, il n'y a pas de problème, OK? Il va aller puiser dans ses réserves... dans sa graisse de foufoune, comme j'aime bien le dire. Hein? On est les bébés mammifères les plus gras souillets. Hein? Fait que on est capable de survivre à cette petite période-là de 24 heures comme ça, en mode récupération. Après ça, hein, je l'ai dit, on s'en retourne à la maison. Et là, ben c'est là que le bébé va comme réaliser, premièrement, que maintenant, il est en dehors de l'utérus. Hein? Fait que ça, c'est un petit peu déstabilisant pour lui. Les éveils vont être très fréquents, les allaitements vont être des tétés groupés qu'on appelle, hein, fait que le bébé veut toujours être au sein, veut toujours être collé sur un des deux parents, puis des fois la montée de lait n'est pas arrivée encore. Et là, ben justement, la maman va se dire, ben j'ai pas assez de lait, mon bébé est tout le temps en train de pleurer, est tout le temps au sein, je le satisfais pas. Et là, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on donne des compléments, des substituts, donc de lait maternel, en fait, de la préparation commerciale pour nourrissons. Parce qu'on se dit, je ne suis pas capable de fournir à mon bébé, OK? On fait presque tout ça, mais c'est par méconnaissance de cette grosse étape-là, la Java du nouveau-né.
Et elle okay. finit par arriver, la montée laiteuse.
Oui, et un coup la montée laiteuse arrive, ben le bébé est beaucoup plus satisfait. Fait que je veux vraiment vous expliquer pourquoi, OK? C'est quoi les trois choses, en fait, qui rentrent en ligne de compte? Pourquoi le bébé est aussi insatisfait durant cette période-là, OK? C'est pas parce qu'il a faim, OK? Il faut arrêter, il faut vraiment déconstruire ce mythe-là entourant la faim. Puis ça, c'est vraiment ancré très, très profond aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, premièrement, c'est l'afflux massif de toutes les nouvelles sensations qui arrivent. Hein? Je l'explique dans ma formation sur le quatrième trimestre. Le bébé, il est dans un environnement intra-utérin où il y a des sensations, où il y a un environnement propre à cet environnement-là intra-utérin. Il arrive à l'extérieur, dans le monde extérieur, comme je l'appelle, et tout est différent. Donc, premièrement, le bébé doit s'adapter à ça. Et là, c'est pas facile parce que après sa récupération postnatale, il se rend compte qu'il n'est plus pantoute dans le même environnement. Et il est insatisfait de ça. Donc, il va être en recherche des mêmes sensations. Donc, qu'est-ce qui lui procure les mêmes sensations? L'odeur de maman, parce que l'odeur de maman, c'est la même odeur que le liquide amniotique. Le colostrum, c'est la même odeur que le liquide amniotique aussi. La chaleur... l'humidité qui est recréée par le pot à pot, et quoi aussi, le fait de déglutir. du liquide.
Ben oui, parce que toute la grossesse, les bébés déglutissent le liquide amniotique. Là.
Exactement. Exactement. Donc, il va être en recherche de tout ça. OK? Fait que c'est pas la faim tant que ça. Le bébé, il comprend pas encore ce système-là de faim. OK? Donc, première des choses, l'afflux massif des nouvelles sensations. La deuxième affaire, le bébé mammifère est super intelligent là, quand même. Il reçoit un signal. OK? Il reçoit un signal de par l'odeur de sa mère qui lui dit « Hey bébé, il y a une montée de lait qui s'en vient. Mais si tu la veux, tu dois participer. Tu dois aller stimuler cette montée de lait-là. » OK? On se rappelle, tu sais, les animaux, c'est comme ça, là, les petits bébés chats, là, toute sa tête, là, non-stop, là, non-stop. Pourquoi? Ben pour faire arriver la montée de lait. Donc, le bébé reçoit le signal de « Hey, si tu veux du lait, là, faut que t'ailles téter. T'ailles stimuler cette montée de lait-là. » Fait que c'est ça qu'il fait. Il va téter. Puis, il va avoir un peu de colostrum. Puis, le colostrum, il est complètement satisfaisant au niveau nutritionnel pour le bébé. Il est juste pas satisfaisant au niveau sensoriel. Tu comprends? Il est pas satisfait parce que ça va pas assez vite dans sa bouche. Tu comprends? Fait que ça, c'est le troisième point. C'est l'insatisfaction du débit. OK? Dans le ventre, dans l'utérus, en fin de grossesse, le bébé va déglutir environ un demi-litre par jour de liquide amniotique et à grosses gorgées.
Quand même!
Des grosses, grosses gorgées. Fait que votre bébé, là, il est habitué d'avoir ce qui rentre au poste, là. OK? C'est pas des petites gorgées de colostrum épais, là, à la goutte, là. C'est du liquide, c'est du débit. Fait que lui, il est en recherche de cette sensation-là, puis il est insatisfait du colostrum parce que c'est pas ça du tout qu'il est habitué d'avoir, OK? Mais comme je l'ai dit, niveau nutritionnel, le colostrum est tout à fait adapté. Fait que c'est ça qui arrive dans ces... Et ça correspond vraiment à la deuxième, troisième nuit. Des fois, ça va être une des deux nuits, des fois, ça va être les deux nuits. Ça se peut que ça soit trois nuits, OK? Ils n'ont pas un piton... Nos bébés ne viennent pas avec un réglage. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'après la récupération postnatale, va arriver la Java du nouveau-né, qu'on appelle aussi la période des éveils fréquents et agités de nuit. OK? Fait que c'est très intense. T'sais, des fois, on a notre bébé là, aux heures, là, des allaitements aux heures. On le couche, il dort une demi-heure, il se réveille, il en veut encore. OK? Puis là, on se dit, ben là, j'ai pas ma montée de lait, je suis pas capable de le satisfaire. Fait qu'on remet en question déjà en partant notre capacité de mère à allaiter puis à satisfaire notre bébé. C'est fou pareil, hein?
C'est fou.
Mais imagine si tous les parents, les familles savaient cette information-là avant d'en arriver là.
Ouais.
Ben, on mettrait des choses en place, puis on avec notre conjoint, notre partenaire, on mettrait justement un système pour se relayer sur le pot à pot pour bien comprendre c'est quoi la dynamique, puis il y aurait un meilleur support qui serait apporté aux familles, finalement.
Puis on se ferait peut-être un peu moins d'attente comme parents, tu sais, en ayant toute cette information-là, de la bonne information, parce qu'on en a parlé, hein, les internets, etc. Tu sais, juste à apporter une petite réflexion, comme on en parlait à l'épisode numéro 1, de se dire, ben écoute, je vais me reconnecter sur moi-même, je vais me reconnecter avec mon bébé, puis je vais penser un petit peu plus à ses besoins physiologiques. Écoute, juste le contact de l'air, Cathy,
ouais.
Ça doit être quand même assez particulier quand tu vivais dans une bulle de liquide amniotique, puis que finalement, ben là, tout d'un coup, tu sais, les sons, les sensations, ça vient vraiment beaucoup stimuler bébé.
Ouais.
Fait que, à porter à réflexion à tout ça, puis de se dire, hey, mon bébé, là, comment il vivait dans mon bedon, tu sais, comment ça se passait pour lui? Ben maintenant, je comprends qu'il y a plus de besoin à être juste connecté avec la sensation de mon cœur, par exemple, ou, tu sais, les gargouillis intestinaux qu'on peut avoir pendant toute la journée, le mouvement.
Tout à fait.
Fait que, tu sais, si on se met à réfléchir un petit peu, là, ben, waouh! Puis écoute, moi, je suis super intéressée. Je pense que je les suivrai, tes formations, même si j'ai eu déjà mes quatre enfants. Mais je trouve ça extraordinaire à quel point on n'y pense pas à ça. Tu sais, on construit notre bébé, il se construit tout seul, puis là, à partir du moment où est-ce qu'on accouche, ben on fait comme, ben, il va s'adapter, tu sais.
Ouais.
Le bébé est fait pour ça, de toute façon. En même temps, on ne considère pas nécessairement son vécu.
Non, c'est ça. Le vécu entourant la naissance, mais aussi le fait qu'il naît de façon déjà très immature. Hein? Le bébé humain, il naît avec un cerveau à 25 % développé.
Oui.
Si on compare avec le macaque, le macaque naît avec un cerveau à 60% développé. Ouais. Et ça, j'explique tout, hein, le pourquoi dans ma formation, là. Je vous l'explique pourquoi que nous, on est avec un cerveau à 25%. C'est fort intéressant.
Écoute, puis ça pourrait être un autre épisode de podcast, ouais. Hein, le vécu de naissance du bébé. On minimise ça aussi, là, Cathy, tu sais, ouais. Un accouchement difficile, même pas tant ouais. difficile, avec plein d'émotions, ouais. Ça a un impact énorme sur la vie du bébé, sur les débuts du bébé.
Oui, moi, je propose beaucoup à mes parents même de raconter la naissance, oui. La naissance à leurs enfants, à leurs bébés.
Ouais.
Puis des fois, ça les fait, tu sais, même des bébés là, naissants, là, on raconte la naissance... On verbalise que c'est, ça se peut que tu as eu peur, ça se sait. Puis vous allez voir que ça peut vraiment aider là, la vie future de votre enfant. Parce que même si on a eu pour nous un bel accouchement, qu'on qualifie d'être un bel accouchement, mm-hmm. on ne sait pas, nous, notre bébé, comment il le vit.
Comment il le vit.
Exactement.
C'est ça. Mais on ouais. en a déjà ouais. fait un podcast.
Je pense que oui. Ouais. Oui. Mais ça serait le fun peut-être de creuser le sujet.
Le processus.
Oui, oui, oui. Fait que j'espère que vous avez aimé cette information-là. Moi, elle me tient vraiment à cœur, puis à chaque fois que je donne cette formation-là, les parents, ils me remercient vraiment après parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'auraient pas été préparés à ça du tout.
Mm-hmm.
Fait que voilà, j'espère que...
Ben, c'est super.
Aimé ça.
Ah, ben moi, j'ai adoré ça, Cathy, puis je sais que ça va rendre service à plein de parents. Puis en même temps, tu sais, juste d'être conscient de ce processus-là, ben, je pense que ça peut aider là, au mieux. Puis des fois, tu sais, faites-les écouter aux grands-parents, faites-les écouter à votre entourage. Tu sais, souvent, il y a des grands-parents qui vont dire « Mais oui, mais là, il y a faim. Mais ouais. oui, mais là, il y a faim. » Mais tout n'est pas rattaché à la faim.
C'est ça.
Tu sais, c'est ça.
Exactement.
Puis on en parlera dans un autre épisode. On a tellement de sujets à aborder. C'est l'enfer. Vous êtes pognés avec nous autres pendant un méchant bout. Mais... le pot à pot, à quel point ça peut être un élément là, crucial là, dans la vie du bébé, dans la vie du nouveau-né, pour l'apaiser. Mais ça, c'est toutes des petites choses qu'on peut mettre en place quand même facilement dans le quotidien, mais qui font une grande différence.
Oui, tout à fait.
Merci de ton partage, Cathy.
Ah, mais ça me fait plaisir.
Fait qu'on souhaite une bonne journée à tout le monde.
Oui.
On se revoit dans un prochain épisode.
Excellent, bye.
Bye. J'espère que tu as apprécié cet épisode et que tu t'es sentie un peu plus accompagnée dans ton quotidien. C'était Annie Normandin, intervenante familiale, et Cathy Dubé, éducatrice périnatale et accompagnante à la naissance. Si tu as envie de rejoindre notre belle communauté Cigogne et Baluchon, rejoins-nous dans notre groupe Facebook VIP Cigogne et Baluchon. Les détails sont dans la description du podcast. À la prochaine!